Chapitre 5. Assommé par la morphine, Eric Jackson s'était endormi comme une masse. Quand il se réveilla, ce mardi 8 septembre, il lui fallut quelques instants avant de s'en rendre compte. Il n'était plus à Carlisle, mais enfin chez lui, à Londres, dans sa maison de Gordon Place. Il regarda sa montre, 3h15 du matin. Il se leva, prit une douche et s'accorda un doigt de gin en guise de petit déjeuner. De toute façon, il n'avait pas faim, il n'aurait plus jamais faim. Il savait que la journée serait difficile, mais sa décision était prise. Il lui restait quelques heures pour faire le ménage dans les deux sens du terme. Ranger son appartement, brûler quelques papiers, rédiger son testament, écrire deux lettres, une au colonel Barnes, l'autre à son fils Michael en Afrique du Sud. C'est par lui qu'il commencerait. Élevé à la dure dans une famille d'ouvriers où l'on tirait le diable par la queue, Jackson n'aimait pas évoquer son enfance à Capel Celline, mais cette nuit-là, tout naturellement, c'est à cela qu'il se mit à penser. Son père se levait tôt pour descendre à la mine, et quand il revenait du travail, épuisé, c'était pour se laisser tomber sur le lit. Sa mère faisait des ménages chez les riches et élevait quelques poules qui leur donnaient des œufs. Un demi-siècle plus tard, cette misère l'étreignait encore. Les jours de son enfance avaient été des jours sans eau courante, sans chauffage, sans toilette, sans argent. Et c'est pourquoi il se sentait différent. Un fils de pauvre reste un fils de pauvre, même s'il occupe un poste important à Scotland Yard et habite à Gordon Place. Si Jackson était devenu policier, c'est parce que le hasard le mit à 12 ans sur la route d'un prêtre qui le prit en amitié et le fit accepter comme boursier à Church Stretton, dont le directeur était un de ses lointains cousins. Le jeune Gallois y glana des lauriers, entra à l'université de Durham et y décrocha une licence de français, langue qu'il alla ensuite, pendant 1 an, perfectionner à Châtellerault. Puis il bifurqua vers l'école de police parce que, disait-il, il y avait moins de rupins chez les flics que chez les intellos. Quelques images de bonheur surnageaient pourtant. Des pique-niques avec ses parents sur les bords de la Treuil-Voirin, les contes gallois que lui racontait sa mère, 2 ou 3 voyages en car à Aberystwyth et à Cardiff, une promenade de classe à Liverpool et surtout ce premier prix en littérature anglaise à Church Stretton. Premier devant les riches, premier devant ceux qui avaient tout eu à la naissance. Sa mère le prit dans ses bras, puis alla tuer un de ses poulets. À son habitude, son père ne fit aucun commentaire, mais il ôta son bleu de travail et, pour la première fois de sa vie, se rendit à la boutique du coin pour acheter une bouteille de vin français. À la fin du repas, tous 3 avaient entonné en chœur l'hymne gallois. C'est alors que le miracle s'était produit. Un Milan royal était venu se poser sur la plus grosse branche du cerisier, et pour la première fois depuis longtemps, le père du jeune Eric avait fait un commentaire. « C'est un signe des dieux. Tu seras célèbre, mon fils. » De retour d'Afrique orientale, Jackson, qui avait pris des galons, tomba amoureux d'une belle galloise, Jessica Yale, qui était riche mais paranoïaque. Devenu père en 1919, il voulut une enfance dorée pour son fils, l'inscrivit à Winchester College et à Cambridge, lui acheta les plus beaux habits, l'envoya à Poitiers et à Harvard. Le jeune Michael Jackson, qui était en Rhodésie quand la guerre éclata, décida de rester en Afrique. Mais qu'y avait-il en commun désormais entre un fils de mineur et un diplômé de Harvard? Michael, sans le dire, reprochait à son père d'être trop absent, de privilégier sa carrière à Scotland Yard et de négliger sa femme. Eh bien, Jackson allait, dans cette dernière lettre, dire à son fils que tout cela était un malentendu, que sa carrière n'avait été qu'un prétexte pour tenter d'oublier des images qu'il ne pouvait accepter. La mort brutale de son père à la mine, l'agonie de sa mère rongée par la tuberculose, puis l'internement de sa femme dans un hôpital psychiatrique, dont elle sortit en 1936 pour aller au cimetière. Un jour, il fallait l'espérer, se dit Jackson en prenant la plume, Michael serait fier d'être le petit-fils du mineur de Capel Celline. Il reviendrait même au village, peut-être. Se rappelant enfin le sang qui coulait dans ses veines, il se ferait élire maire ou député. Et les gens diraient, Vous savez, son grand-père est mort dans un coup de grisou, et son père était un des pontes de Scotland Yard. Oui, on pouvait rêver, sans trop se faire d'illusions tout de même. On pouvait se dire, pour se consoler, que Michael regretterait un jour d'avoir snobé son père et d'avoir laissé s'installer le silence au fil des ans. Pourquoi, se demanda le policier, faut-il donc toujours que la mort rapproche ce que la vie n'aurait pas dû séparer, que l'essentiel apparaisse comme une évidence dès que sonne le glas, que la rudesse d'une main gercée se charge dans le souvenir d'une infinie tendresse. Jackson mit 2 heures à écrire sa lettre. Puis il se saisit d'une autre feuille de papier. La missive pour le colonel Barnes, son seul ami, serait plus brève. L'opération Bushido était annulée, certes, mais rien n'interdisait de croire au code Bushido et au précepte ultime des samouraïs. Garde toujours pour toi la dernière balle. Reggio di Calabria. Quand le jour se leva sur la Calabre, ce 8 septembre, Pietro Borghese se rendit compte qu'il était dans de sales draps. Ce qui était une façon de parler, car il avait dormi tout habillé sur le banc en bois qui lui servait de matelas, juste à côté de la fosse d'aisance. La veille au soir, les carabinieri lui avaient servi un verre d'eau, un quignon de pain et des pâtes réchauffées en guise de dîner. Encore pouvait-il considérer qu'il s'agissait là d'un très provisoire traitement de faveur, dans l'attente des charges accablantes qui seraient retenues contre lui. Pietro était courageux. Il n'avait pas hésité, par exemple, à casser le nez d'un vieux vicelard qui regardait sa sœur d'un œil trop lascif. Comme son oncle, le jeune Sicilien avait la morale chevillée au corps. Le respect de la famille, le respect du village natal, le respect de la virginité de sa sœur. Il n'avait qu'un mot à la bouche, « rispetto ». La conduite irréprochable que ce moraliste exigeant s'attendait à trouver chez les autres, dès lors qu'il frayait avec sa tribu, il oubliait volontiers d'en faire preuve lui-même quand il s'éloignait de sa terre natale. Il décida de proposer un marché à la police. Il dirait tout sur cette voiture, mais à condition de rester ici en Calabre, où les choses entre hommes pouvaient toujours s'arranger. Au bout de quelque temps, un certificat médical lui ferait franchir le détroit de Messine, et il se retrouverait parmi les siens à Palerme. La mafia n'était pas faite pour les chiens. L'ennui, c'est qu'il fallait concocter un scénario vraisemblable. Il n'était pas question de trahir l'oncle Luigi, surtout que celui-ci émargeait au Vatican et lui devait le prix de ses prestations. Dire que les deux étrangers, le barbu et l'Africain, avaient poursuivi leur route vers l'Allemagne, cela, oui, il le pouvait. Le scénario devrait être simple. Alors que Pietro ramenait l'Hispano-Suiza du garage, deux bandits et armés jusqu'aux dents l'avaient pris en otage jusqu'à Bologne. Là, il s'était débarrassé de lui après avoir menacé sa famille des pires sévices et sa sœur des derniers outrages. Afin de voler au secours des siens, le jeune homme avait sauté dans un train en partance pour le sud. Mais faute d'argent, il s'était contenté d'un billet jusqu'à Naples. Oui, tout cela était à la fois convaincant et invérifiable. Il n'aurait pas à mettre son oncle en cause. Même sous la torture, il ne dirait jamais que c'était lui, Monseigneur Borghese, qui, du Vatican, avait tout combiné. Non, Pietro ne dirait rien. Un oncle prêtre, c'est sacré, doublement sacré. Rispetto. Berlin. Jutta Wurz, ce même matin du 8 septembre, était elle aussi la plume à la main. Cela faisait des semaines qu'elle remettait à plus tard la rédaction de cette lettre qu'elle voulait envoyer à Rufus Dunstan, l'Écossais qui, pendant de longs mois, l'avait recueillie au Tanganyika. La vie à Berlin devenait chaque jour plus difficile. Elle et son frère étaient en permanence espionnés et suivis. Leur téléphone était sur écoute. C'est à voix basse qu'elle parlait à son frère. L'heure du grand départ était proche. Il allait falloir partir sans tarder et avant tout récupérer les passeports et les faux papiers qui dormaient à la morgue de l'hôpital. Le docteur Hoffmann, à son tour, était suspect. Il devenait urgent de se débarrasser de cette Trudy Schneider. En attendant, il y avait cette lettre à écrire. Juste avant de partir, Martin la confierait à un de ses amis de l'ambassade d'Espagne qui la glisserait dans la valise diplomatique. Avec un peu de chance, son courrier arriverait au Tanganyika pour Noël. Dès que la guerre serait finie, Yuta prendrait le premier avion pour Dar es Salaam. Prenero. Aldo Santini avait pris quelques jours de congé pour le mariage de sa sœur. Lorsqu'il arriva au poste frontière ce matin-là, il se demanda s'il ne rêvait pas. Le barbu qu'il avait remarqué quelques jours auparavant le regardait d'un air ironique. Sur une deuxième affichette, le douanier reconnut aussi le chauffeur de l'Hispano-Suiza diplomatique. Ces deux hommes, si on en croyait la brève légende d'accompagnement, étaient recherchés par la police de Rome. Le douanier fit la grimace. Il était tentant de décrocher le téléphone et d'appeler le numéro indiqué, d'autant qu'une récompense serait probable. Mais le douanier n'était pas né de la dernière pluie. Se manifester pouvait tout aussi bien attirer une cascade de sérieux ennuis. Il faudrait rédiger des rapports, voire répondre aux questions des enquêteurs venus de Rome. On allait même lui remonter les bretelles si ces deux hommes étaient les ennemis. Ses chefs lui reprocheraient de n'avoir rien vu. Pourquoi diable aurait-il vu quelque chose? Les douaniers n'avaient pas à chercher les poux dans la barbe des diplomates, surtout ceux du Vatican. N'empêche, il était urgent d'attendre. Aucun de ses collègues n'avait réagi. Il est vrai qu'ils devaient, eux aussi, dormir d'un œil quand la voiture était passée. Et puis, c'était Aldo Santini qui avait eu en main les deux passeports. Bien, il n'y avait pas péril dans la demeure. Il en parlerait ce soir à sa femme, laquelle était toujours de bons conseils quand il fallait se coltiner à l'administration. Aucun règlement, d'ailleurs, ne précisait que les douaniers devaient consulter chaque matin les avis de recherche. Prudence est mère de sûreté. Il laisserait passer 24 heures. Berlin. Après une nuit trop courte, Trudy Schneider était arrivée à 8h30 devant l'immeuble des Wurtz. Elle commençait à en avoir sa claque de cette filature qui n'en finissait pas, et ne manquerait pas de le faire savoir à Himmler quand elle le verrait en fin d'après-midi. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Elle était parfaitement capable de s'en tirer seule. Nul besoin de la faire doubler par ce crampon de Breuer qui semblait perdre la tête, s'il l'avait jamais eue, et qui se prenait pour Sherlock Holmes. La veille, la jeune femme avait appris par un de ses informateurs de l'hôpital que Breuer s'était permis d'interroger le docteur Hoffmann, alors qu'elle-même s'occupait déjà du médecin, d'ailleurs sur écoute téléphonique. La visite inopinée de Breuer risquait de lui mettre la puce à l'oreille. Quand la horge de Martin sortit du garage, sur le coup de 8h45, Trudy relança son moteur et se glissa dans la circulation à 200 mètres derrière. Il faisait déjà chaud et la jeune femme avait ouvert la fenêtre côté conducteur. Une nécessité d'ailleurs puisqu'elle fumait chaque jour 4 paquets de Salem. Elle ne remarqua pas que quelques secondes plus tard, la moto de Yuta, une discrète DKW, émergeait à son tour du parking souterrain. Les deux voitures pénétrèrent bientôt dans la grande avenue Unter den Linden, sous les tilleuls. Seule une nation de poètes pouvait nommer ainsi un de ces boulevards. Il y avait peu de circulation. La présence militaire elle-même était réduite, mais on notait des militaires armés en faction derrière des sacs de sable. La ville connaissait les bombardements depuis 1940. Mais rien de comparable avec ce que Londres avait subi. Tout au long de l'artère, sur les façades des sévères bâtiments à colonnes et à frontons, des dizaines d'oriflammes rouges et noires claquaient sous le vent de septembre. On était là au cœur du Troisième Reich, au pays des tilleuls. Berlin était l'une des 3 villes sacrées, avec Munich, où le mouvement était né, et Nuremberg, où se déroulaient les grands congrès du National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Certes, Berlin n'en était encore qu'au tout début de sa métamorphose. Lorsque les travaux du grand architecte Albert Speer seraient terminés, dans les années 50, la nouvelle capitale serait méconnaissable, avec une avenue de 120 mètres de large et 5 kilomètres de long, un arc de triomphe 2 fois plus haut que celui de Paris, un immense palais du peuple qui pourrait accueillir 150 000 personnes, un hôtel de ville et un opéra enfin digne de ce nom, des gares modernes, de grands espaces verts, le parc du Tiergarten entièrement repensé, des tilleuls même, peut-être, où les oiseaux pourraient chanter. Le palais de Hitler aurait 2 millions de mètres carrés, avec une salle à manger pour recevoir 2 000 invités. Tout y serait gigantesque. Les plans de cette nouvelle Germania, sans cesse revus et corrigés par Hitler, étaient prêts. Mais la guerre retardait le début de ce grand chantier qui ferait de la métropole allemande la plus impressionnante capitale du monde. Elle ridiculiserait Paris, Washington et la Rome antique, et ses ruines dans 1000 ans seraient encore là pour témoigner de la puissance du Reich. Pour l'heure, il était triste de le constater, à l'exception de trop brefs séjours, Hitler boudait cette capitale inachevée que, dans la pratique, il laissait à son ministre de la propagande et super-préfet de Berlin, le Gauleiter Joseph Goebbels. Mais le Führer y reviendrait bientôt en triomphateur, quand les combats seraient terminés sur le front russe et qu'il pourrait enfin se consacrer à l'architecture qui le passionnait davantage que le bruit des armes. Martin ralentit soudain, comme s'il cherchait à s'arrêter. On apercevait déjà la porte de Brandebourg surmontée de son quadrige. Trudy freina à son tour, passa en seconde. Elle ne s'aperçut pas que la moto qui la suivait accélérait. Un bras se détendit à hauteur de la portière et une grenade atterrit sur le plancher. La jeune femme se pencha pour essayer de la saisir, tandis que la moto filait déjà au loin, au maximum de sa puissance, et que la horche de Martin, soudain relancée, se noyait dans la circulation. Une formidable explosion illumina l'avenue. Rome. En retrouvant son bureau ce matin-là, Mario Volponi était persuadé que le planton de service lui tendrait la fiche téléphonique, indiquant que la police des frontières avait enfin retrouvé la trace des deux étrangers. Mais le fonctionnaire secoua la tête. Non, aucun appel. La distribution massive d'affichettes à travers toute l'Italie et dans tous les postes frontières s'était soldée par un seul coup de téléphone inutile, celui du policier de Catanzaro. Il y avait une couille quelque part. Il fallait la trouver. Volponi se fit monter un café et alluma une macedonia. La nuit avait été courte car son épouse avait voulu fêter au lit son anniversaire. Le policier jouissait d'une flatteuse virilité, mais à 50 ans bien sonnés, il ne marquait plus midi à toute heure. Il fit pour le mieux. La prestation tira en longueur, ce qui lui donna la migraine. Il dormit mal, se leva du mauvais pied, cassa un de ses lacets de chaussures et se cogna contre la porte de l'ascenseur. Il arriva au bureau de fort mauvaise humeur, laquelle ne s'améliora pas quand il découvrit que, contre toute attente, son enquête était au point mort. Le policier reprit tout à zéro et parvint à une conclusion provisoire mais séduisante. Si les deux hors-la-loi n'avaient en apparence franchi aucune frontière, c'est qu'ils étaient toujours là. Ils s'étaient sans doute contentés de faire les quelques pas qui les séparaient de la frontière la plus discrète du monde, celle qui séparait Rome du Vatican. « Décidément, mon pauvre Volponi, se dit-il, tu vieillis, tu vieillis. Tes jeunes collègues ne vont pas tarder à te pousser au placard. » En attendant, il allait prendre une revanche éclatante, car c'est au Vatican qu'il comptait le plus d'informateurs, tous prêts à vendre leur âme pour quelques deniers. Il décrocha son téléphone. Londres. Sir Archibald Smith Bolsonberry fit de nouveau pénétrer Barnes et Jackson dans le petit salon. Cette fois, l'absence du Premier ministre se comprenait, puisque ce 8 septembre marquait la rentrée solennelle du Parlement. « Il vous fait ses excuses, » ajouta l'homme du Foreign Office, qui semblait moins pressé que la veille, « et il vous félicite pour la qualité de votre travail. » L'opération Bushido était un petit chef-d'œuvre. Votre scénario restera dans les annales. Churchill, si l'on en croyait le vieux beau de service, n'en était que plus attristé de devoir y mettre un terme. La raison d'État a, hélas, ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous avez lu la presse? Nous avons dû ouvrir le feu hier sur des émeutiers à Bombay. Par ailleurs, les Allemands viennent de capturer le port de Novorossiisk, sur la mer Noire. Ah, la situation n'est pas simple. Sir Archibald reprit son souffle. Heureusement, le Premier ministre reste confiant. Il ne doute pas, par exemple, que vous avez trouvé le moyen de stopper l'opération Bushido. » Le colonel eut un sourire. « Oui, monsieur, en effet. Nous allons télégraphier à Ribbentrop en le priant d'arrêter Christian Lloyd et Tulbahadur Tapa. Nous ne manquerons pas, dans le même temps, de lui transmettre vos amitiés. » L'aristocrate accusa le coup. Il avait en d'autres temps dîné plus d'une fois avec Ribbentrop lorsque celui-ci était ambassadeur à Londres. Le diplomate, qui n'aimait pas s'en souvenir, se força à cacher son irritation. « Ce serait en effet une solution, grommela-t-il en allumant une cravenne. Je m'en veux de n'y avoir pas pensé. » « Rassurez-vous, Sir Archibald, intervint soudain Jackson. Le colonel plaisante. Il a tout préparé. Seuls quelques détails restent à régler. » Surpris, Barnes tourna les yeux vers son collègue. « Oui, reprit le policier, un avion décollera demain soir pour l'Allemagne. Destination, le sud de Munich. Il y a de fortes chances pour que notre agent Alcibiade soit à même de nous conduire à Christen et à Tapa. Il s'agit d'une mission aérienne assez délicate, et le colonel souhaiterait que le capitaine Stend, dont il a apprécié à Malte les qualités exceptionnelles, soit aux commandes de l'appareil, avec, par ailleurs, le meilleur navigateur de la RAF. Un agent britannique sautera en parachute à proximité du monastère d'Alcibiade. » Le visage de Sir Archibald s'illumina. « Vous nous enlevez une grosse épine du pied. Vous avez trouvé un volontaire parlant allemand pour cette opération suicide ? » interrogea-t-il. Jackson opina. « C'est justement parce qu'il s'agit d'une mission suicide qu'il a accepté. Il ne connaît pas 10 mots d'allemand, mais son français est bon. Nos faussaires vont en faire un Gastarbeiter, en l'occurrence un travailleur français. Ils devront le rajeunir un peu. Les documents seront prêts demain. » Sir Archibald se tourna vers Barnes. Il rayonnait. « Brillant scénario, colonel. Toutes mes félicitations. » L'officier resta de marbre. « Vous transmettrez, reprit le diplomate, mes plus chaudes félicitations et celles du Premier ministre, au jeune et courageux soldat anglais qui, au péril de sa vie, accepte d'être ainsi parachuté au-dessus de l'Allemagne. » Barnes secoua la tête. « J'aimerais apporter quelques correctifs à ce que vous venez de dire, Sir Archibald. Le volontaire en question n'est plus très jeune. Il est courageux, mais surtout fou allié. La preuve, il n'a jamais sauté en parachute. Il y a un autre détail, 100 fois plus important, que je vous demande, s'il vous plaît, de noter sur vos tablettes. Au fait, colonel. » Barnes sourit tristement. « Ce candidat au suicide n'est pas anglais, mais gallois. » Sir Archibald se leva. « Un gallois ? Mazette, tout s'explique. J'ai toujours pensé que les Celtes étaient fous. » Berlin. L'après-midi traînait en longueur, et les plantons de service devant le quartier général de l'Abwehr, au 74-76 de la Tirpitzufer, ne cessaient de regarder leurs montres. Il faudrait attendre encore 2 bonnes heures avant la relève. Non que cette journée du 8 septembre fût difficile, bien au contraire. Aucun Allemand n'aurait été assez fou pour s'en prendre à l'Abwehr. Berlin, d'ailleurs, était calme. On avait bien entendu, dans la matinée, une explosion inhabituelle du côté de l'Unter den Linden ou de la porte de Brandebourg. Une explosion accidentelle, assura-t-on bientôt à l'Abwehr. Une longue voiture blanche apparut soudain au bout de la rue. Les gardes se redressèrent. Il fallait se méfier. Ce pouvait être l'arrivée inopinée d'un officier supérieur, d'une des huiles du parti, du Gauleiter Joseph Goebbels peut-être. Non, il s'agissait seulement d'une voiture du corps diplomatique. Une voiture étonnante d'ailleurs. Rien d'inquiétant donc. L'Abwehr était en contact permanent avec la terre entière. L'hispano-suiza s'arrêta, et le chauffeur alla ouvrir la porte arrière. Il s'inclina, et un ecclésiastique vêtu de rouge mit pied sur le trottoir. Un cardinal, un prélat, un évêque, un nonce apostolique, les militaires ne connaissaient pas assez les arcanes de l'Église pour faire la différence, à supposer qu'il y en eût une. Force était d'admettre que l'étranger avait belle allure, avec sa grande soutane couleur de feu, ses lunettes d'écaille, sa calotte et sa barbe. Il portait un gros livre à la main, une Bible sans doute. L'homme n'eut pas un regard pour son chauffeur, qui repoussa la portière, s'adossa à l'un des vastes garde-boues de la voiture et alluma une Carreras. C'était un curieux petit bonhomme, trapu, court sur pattes. Pour les gardes dans la force de l'âge, cet étranger paraissait un vieillard. Les soldats allemands ne purent s'empêcher de sourire. Tant que le Reich n'aurait que de tels visiteurs, le Führer pourrait dormir tranquille. Il est vrai que ces gens venaient du Vatican, c'est-à-dire au fond d'une maison de retraite où la moyenne d'âge devait tourner aux alentours de 90 ans. L'un des gardes s'approcha de l'Hispano-Suiza, en fit le tour, puis lança un « Guten Tag » amical, auquel le chauffeur, on aurait dit un Asiatique, répondit par un hochement de tête. L'Allemand lui demanda ce qu'il fumait. Toulbahadour comprit le mot « cigarette » et tendit son paquet de Carreras. Le militaire se servit avec avidité et glissa la cigarette dans une de ses poches. Pendant ce temps, d'un pas mesuré, le prélat montait les marches de l'immeuble et se présentait à l'accueil. D'une voix forte, il prononça quelques mots dans un allemand impeccable, mais avec un curieux accent étranger. Un capitaine se précipita vers lui et claqua les talons. « Ah, Herr Hauptmann, » fit Christian Lloyd, « j'ai l'honneur de vous remettre ce volume, Les sept piliers de la sagesse. Il contient de précieux microfilms, précieux pour l'avenir du Reich. Veuillez noter, je vous prie, que je suis Monseigneur Mario da Silva, de la Nonciature apostolique de Goa. Je devais remettre ce livre en personne à un de vos agents en Égypte, mais cela n'a pas été possible. Bien, permettez-moi, Herr Hauptmann, de vérifier l'orthographe de mon nom. » Il se pencha sur la feuille que tenait l'officier. Il eut un discret sourire. « Et non, ce n'est pas da Silva, mais da Silva, en deux mots. Je suis désolé, Excellence. Sans doute désirez-vous rencontrer un des hauts responsables de l'Abwehr. Je vais voir si l'un de mes supérieurs peut vous recevoir. » Christen regarda sa montre et secoua la tête. « N'en faites rien, Herr Hauptmann. Cela me sera impossible aujourd'hui, je le crains. J'ai encore une série de rendez-vous importants. Je reviendrai demain à 11 heures. Il me serait agréable de rencontrer le responsable des affaires indiennes. Herr Wurz ?»« Ja, Herr Martin Wurz. Veuillez l'en informer dès ce soir, je vous prie, car ma mission en Allemagne sera très brève. » « Herr Wurz, sait-il qui vous êtes, Excellence ?» Lloyd acquiesça. « Il m'a sans doute oublié, mais il nous est arrivé de nous rencontrer une fois à Bruges, le 8 septembre 1932. Tiens, curieuse coïncidence, nous sommes le 8 aujourd'hui. Facile à retenir, mais notez-le néanmoins. » Le capitaine obéit. « C'est fait, Excellence, j'ai bien noté. Bruges, 8 septembre 1932. » « Fort bien, Herr Hauptmann. Il est impératif que le livre soit remis dès ce jour à un haut responsable, car il recèle, je vous l'ai dit, des documents de la plus haute importance. » Le faux prélat regarda à nouveau sa montre. « Je ne puis hélas m'attarder. Merci en tout cas pour votre courtoisie, Herr Hauptmann. Peut-être nous reverrons-nous demain. Auf Wiedersehen. » L'officier claqua les talons. Il n'était pas dans les usages de crier « Heil Hitler » à l'Abwehr. Christian Lloyd salua d'un coup de tête hautain, puis se dirigea à pas lents vers la sortie. Une fois dehors, il sortit son étui en or, saisit une nouvelle Carreras et l'alluma sans hâte. Puis il se dirigea vers sa voiture, tapa se pliant en deux et ouvrit la portière. L'instant d'après, l'Hispano-Suiza quittait la Tirpitz-Ufer et repartait vers la porte de Brandebourg.